Dites 37-2.
37-2.
Vous avez 37-2 messages archivés.
Et mon accent, je ne peux pas me séparer parce que je suis feignant et parce que je ne vois pas l'intérêt. Vraiment, c'est ça. Quand on cherche dans son passé, bon, ça c'est le micro et ça sert à faire une sorte de thérapie psychanalyse, quoi. Et on revient que quels sont les faits marquants qui vont marquer aussi l'activité d'une personne, sa façon de vivre.
Cette semaine, dans 37-2, on écoute Jean. Vous l'entendrez nous parler de voyage, de sa vie ici et là-bas entre la France et l'Argentine, mais vous n'entendrez pas parler de péronisme ni du bal où se sont rencontrés ses parents.
Si j'ai fait une histoire rapide, mon père, à 16 ans, il a quitté le sud-ouest de la France pour rentrer dans la résistance. Il s'est retrouvé à Marseille. À Marseille, il est allé à Toulon pour détruire la flotte et il est parti avec la marine française vers le nord de l'Afrique et avec l'intention, disons, politique de continuer jusqu'au Vietnam. Il était mécanicien, des moteurs diesel, etc. Et après tout ça, revenu dans son sud-ouest natal. Le sud-ouest a une loi, surtout les Béarn, très particulière d'héritage. Ça veut dire que dans une famille, l'aîné hérite la totalité des terres et des biens, et la seule obligation morale qu'il a, c'est d'assurer plus ou moins l'éducation ou la formation professionnelle de ses frères. Mon père était le troisième. Et mon père, qui ne pouvait pas demander grand-chose, parce que bon, les biens étaient légèrement limités, a eu un aller en bateau, troisième classe, à Buenos Aires. Faire un tour du monde, à tout qu'il avait, qui était mécanicien diesel des bateaux, ce qui permettait de trouver du boulot dans la marine. Entre-temps, a connu ma mère. Lui, il avait 30 ans et ma mère, elle avait 40. Bon, je suis né en 22 novembre des années 54 et ils sont mariés le 22 février et de l'année 54. Faites les comptes, c'est 9 piles. Comment je m'appelle ? C'est déjà une question difficile. Parce que je m'appelle Jean-Charles Rémy. Mais avant, je m'appelais Juan Carlos Rémy. Tout ça, ça vient d'un problème très particulier, c'est que à ma naissance, avec un gouvernement nationaliste en Argentine, on n'avait pas le droit d'avoir des prénoms qui ne soient pas en langue espagnole. Ça veut dire que mon père avait choisi des prénoms français. Et il a dû traduire, pas lui, mais plutôt les fonctionnaires qu'il a accueillis. Et ça, c'était côté de l'Argentine. Côté français, les problèmes étaient différents. En France, on a la possibilité de franciser son prénom. Ça veut dire que Cecilia, en Argentine, peut très bien devenir Cécile en France, dans ses papiers et tout. Mais il n'a aucune possibilité de revenir sur une autre langue. Ça veut dire qu'en m'appelant Jean-Charles Rémy, je ne pouvais pas passer à Juan Carlos Rémy, parce que ce n'était pas français, parce que ce n'était pas contemplé, la loi ne permettait pas de le faire. Mais bon, petite anecdote, mais qui explique pourquoi on peut être un peu coupé en deux. Et qu'est-ce qui se passe quand une culture appartient à deux endroits différents. et à des époques différentes. C'est ça aussi important. Ma mère habitait depuis ses 15 ans jusqu'à 75 ans qu'elle est décédée, les mêmes appartements. L'effet d'avoir vécu ça m'a fait voyager et déménager des tonnes de fois dans ma vie, quoi. Et je ne sais pas si je compte le nombre d'endroits dans lesquels je suis habité. J'ai habité, c'est énorme, quoi. J'ai décidé, d'une façon assez bizarre, parce que je connaissais des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, j'ai décidé de me préparer pour entrer au Collège National de Buenos Aires. On appelle des études secondaires, c'est entre l'école primaire et l'université. Bon, ces collèges-là étaient un peu comme la Mecque de tous les gens qui sortaient des milieux intellectuels argentins, milieu de pouvoir, politique, etc. Je dirais que c'était un rêve intellectuel d'appartenir à cette espèce de petite société en formation, quoi, et qui m'a ouvert à la littérature, au cinéma, au théâtre, à l'opéra, à la musique, à des choses qui c'est impossible aujourd'hui même, je crois, à 13-14 ans, s'ouvrir vers tout ça, quoi. Et déjà la préparation, c'était une introduction à la gauche. Tous les profs étaient des gauches, la vision de l'histoire, une série de choses. Déjà, ça y est, tu étais préparé. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a changé la vie, qui m'a ouvert à des autres. C'était une époque formidable. Formidable parce que c'était juste avant les dictatures militaires importantes. Je te dis une phrase en espagnol, après je vais faire la traduction. La phrase de l'extrême droite pour définir les collèges, c'était de dire « Ay Buenos Aires mío, quien no es bolche es judío ». Ça veut dire « Oh mon Buenos Aires, oh mon collège, c'est lui qui n'est pas bolchevique, il est juif ». Ça veut dire que la caractéristique centrale de ces gens-là, soit au niveau des professeurs, soit au niveau des élèves, c'était que la plupart sortaient des rangs des gens qui étaient déjà dans la gauche argentine et avec une connotation des communautés juives très, très importante.
Malena canta el tango.
D'abord, je me suis fait une sorte de réputation d'indépendant. Ça veut dire que moi, j'ai discuté avec tout le monde. Et après, j'agissais. J'allais en manif. Je pouvais mettre des tracts quelque part, etc. Mais parce que j'avais choisi, que ça m'apparaissait bien. Mais j'étais jamais affilié à quelque chose. Après, quand la dictature militaire arrive vraiment au pouvoir, c'était presque anormal de ne pas avoir peur. Alors, c'était une époque dans laquelle les mecs avaient des systèmes qui étaient très, très artisanaux. Je prenais des risques, oui. La preuve, c'est que j'avais pas mal de surnoms. Ça veut dire qu'au point qu'après, les pistes s'ébrouillaient parce que personne connaissait ton vrai prénom, personne connaissait ton adresse. Cette sensation-là de la dictature, c'était une sensation d'horreur. D'horreur la plus totale. Parce que d'un côté, tu as toujours la culpabilité de la personne. Ça veut dire que tu ne peux jamais oublier que si quelqu'un a été tué à ton côté, pourquoi tu n'es pas tué ? Tu n'as pas été tué. Pourquoi tu n'es pas mort ? Et ça explique pourquoi j'avais peur. La réalité, c'est ça, et il avait de quoi avoir peur. J'ai fait des études d'architecture à l'Université de Buenos Aires et j'ai traîné pendant 10 ans, habituellement entre 5 et 6, on peut le faire. Mais entre-temps, j'ai eu des filles, je me suis marié, je devais travailler, pas mal de choses. Et je comprenais de toute façon que finir mes études, ça ne me changeait rien, absolument rien. Peut-être nos filles aussi nous ont poussées d'une certaine façon, parce que quand tu es tout seul, tu te dis, bon, tout va mal, mais bon, je peux quand même, j'ai mes copains, j'ai la famille, tu vois. Mais après, quand tu as des enfants, tu te dis, putain, quel avenir de merde. Ils sont ici, alors bah, c'est pas la peine de rester. Un mauvais collectionneur, ça veut dire que j'ai fait des collections de choses, mais sans m'inquiéter pour avoir la collection complète ou pour avoir la pièce qui manque. Ce qui m'amuse, c'est de cumuler des objets du même type. Par exemple, le réveil. Tu vois qu'il a des réveils énormes, parce qu'en plus, la signification sociale de ça, et les réveils, ils ont commencé à apparaître dans toutes les brocantes les jours où le travail a disparu. Parce que c'était un objet que le possesseur n'aimait pas. Je me souviens du rapport qu'avait mon père avec le réveil. C'était presque un instrument de torture. Parce que c'était ça qui faisait du bruit pour que tu puisses aller travailler. Bon, dans les brocantes françaises, j'imagine que c'est passé la même chose. Alors, je commençais à acheter les vieux, le moins vieux, celui qui me plaisait, etc. Après, c'était les photos. Tout le monde passait à la photo numérique. Et alors, il pensait que c'était inutile de garder sa vieille... son vieil appareil argentique, et j'ai commencé à faire une collection des appareils argentiques. Et après, les plaques émaillées, ça c'est une chose que j'ai toujours aimé, et je trouve, dès que je trouve, j'achète dans les brocantes. Donc ça c'est la plaque émaillée traditionnelle qui s'émet pour signaler l'adresse à Buenos Aires, et c'est la mairie qui te la donne, l'avant. Et ça, c'est acheté dans une brocante là-bas il n'y a pas longtemps. C'est aussi une sorte de vie rêvée, parce que Paris me plaît beaucoup, parce que ça ressemble beaucoup à Buenos Aires aussi, si on veut. Et il y a beaucoup de choses à faire. J'adore les cinémas, on va beaucoup au théâtre, l'opéra, etc. Et après, bon, c'est cimenté, cette idée-là de rester, parce qu'on était bien, quoi. Parce qu'on est bien, on est très bien. Et l'Argentine, ça nous paraît de plus en plus éloigné, quoi.
Vous venez d'écouter Jean dans 37.2, un portrait réalisé par Elsa. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.